Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence, on est Charlie, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Mini Metro The Talos Principle et on finira avec Captain Toad Treasure Tracker. Voilà, on a cherché le nom avant l'émission. Et puis Monsieur Fall et puis le com des coms. Vous connaissez le reste du programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Yann François de Trois Couleurs et de plein de choses. C'est ça, c'est comme
c'est ça.
Ça.
On peut le dire.
On peut le
ça
dire.
Me plaît.
Ça te plaît. Et Corentin Lamy de JV.com. Et vous êtes tous deux du podcast JV.com.
Non, perdu.
Ah,
c'est... Ils n'ont pas encore racheté.
On y pense.
C'est le seul magazine qui n'a pas été racheté encore par JV.
De JV, le magazine, oui, pardon, je sais pas d'où c'est sorti. Je suis
c'est pas peut-être une prémonition.
Je suis confus. Et vous êtes tous deux membres du podcast ZQSD. Bien sûr qu'on ne cite pas assez, qu'on citera toujours. Voilà. Un podcast ami, voisin. Tout ça, de voisins d'iTunes, enfin voilà. Cette intro est beaucoup trop longue. Et puis voilà, je voulais juste préciser avant de commencer cette émission, on est ici même dans le studio de Libération, on est 4 étages pile en dessous de là où se construit, s'écrit, se dessine Charlie Hebdo. Ça a été une question de savoir est-ce qu'on recommençait cette semaine Silence on Joue. On s'est tous posé la question de quand est-ce qu'on peut commencer à reparler de choses qui semblent ces jours-ci très futiles. Et puis bah voilà, on s'est dit que retarder, enfin on se poserait tous de toute façon toujours cette question, si on se reposerait la semaine prochaine et tout ça, autant reprendre les choses le plus vite possible. Ça nous empêche pas de beaucoup penser. J'ai l'impression d'être bête en disant ça, mais de beaucoup penser aux gens qui sont partis, aux gens disparus, et puis à toute leur famille et leurs amis. Voilà. Ça va être à toi de commencer, Yann.
Oui.
à reparler des
choses un peu plus futiles.
Donc avec Nintendo.
Oui, Nintendo. Généralement, avec les approches de Noël, se porte assez bien, puisque avec les sorties groupées de Mario Kart et de Smash Bros, voilà, ça a été un très bon Noël. Même en France, il y a eu une espèce de rebond comme ça, où elle s'est vendue, on en est à 500 000 exemplaires.
De la Wii U.
Mais quand bien même, il y a eu une actu un peu triste pour quand même un pays assez immense qui est le Brésil, puisque l'éditeur a annoncé que très prochainement il ne vendrait plus de produits, donc ni consoles ni jeux, sur le territoire brésilien. Alors, il y a beaucoup de causes à cela, et notamment le fait que le Brésil a une politique assez particulière en matière de loisirs et divertissement, puisque les jeux vidéo sont fiscalement considérés dans la même niche que les jeux d'argent. Donc, ils sont...
Ah oui, quand même.
Ouais, oui. Ils sont extrêmement taxés, c'est-à-dire à hauteur de 120% sur les importations. C'est une loi qui peut être contournée par les éditeurs s'ils jamais ils décident d'implanter des usines voilà, de construction pour employer la main-d'œuvre locale. À ce moment-là, ils ne sont pas taxés. Mmh. C'est ce qu'avait fait notamment Microsoft à l'époque de la 360 et ce qui a permis un peu de prendre le marché puisque la console était beaucoup moins chère. Mais...
Même dans les années... Je t'interromps 3 secondes, juste même dans les années 80-90, il y avait tout un plein de consoles très curieuses qui existaient qu'au Brésil, parce que c'était ouais. En fait des versions brésiliennes de consoles qui étaient fabriquées sur place et qui étaient en fait des versions un peu pirates, enfin pas pirates mais locales on va dire, des consoles qu'on connaisse chez nous.
Absolument, et j'ai découvert ça, c'est que le Brésil était aussi une espèce de bastion... de cette guerre qu'il y a eu dans les années 90 entre Nintendo et Sega. Et apparemment, c'était un pays qui penchait beaucoup plus pour la firme de Sega, puisqu'elle s'était alliée là-bas avec un constructeur, un traducteur. Et du coup, les jeux étaient traduits en brésilien, pardon. Et du coup, Nintendo a toujours eu des problèmes pour s'implanter ouais. là-bas. Et pour se donner un ordre d'idée, parce qu'il y a Sony aussi qui sont dans le même cas de figure, pour acheter une console next-gen, on va dire, une PS4, c'est l'équivalent de 4000 réals, enfin c'est 4000 réals, soit l'équivalent de 1 300 € pour nous.
Pour le salaire local, c'est...
Le salaire moyen étant ouais. de à peu près 800 euros par mois.
Je crois qu'il y a peu la PS2, qui est la console la plus vendue encore au Brésil, mais il y a très peu de temps. Quoi.
Voilà, ouais. Et la Wii U, elle est équivalente de 600 euros. Donc effectivement, c'est un marché qui n'est pas extrêmement florissant en ce moment. Et, et par rapport au coût de production et d'importation, Nintendo a décidé de retirer ses parts du marché. Alors... Effectivement, le discours officiel, c'est bien sûr, ça reste un marché qui nous intéresse, voilà. En l'état, les consoles se vendront un peu sur le marché gris, sous le manteau. Le problème étant aussi que le Brésil, apparemment, souffre beaucoup de connexions assez lentes. Donc, pour le dématérialiser, c'est un peu compliqué. Mais à côté de ça, j'ai vu que des experts estimaient quand même le marché brésilien au niveau du dématérialisé à plus d'1,5 milliard de dollars. Donc, c'est quand même... il y a un potentiel économique qui est énorme. Mais je pense que pour des modes de consommation physique, et Nintendo est encore très là-dessus, je pense que voilà, c'est encore un peu trop vétus pour eux.
De protectionnisme fiscal au Brésil, et Nintendo abandonne la partie. Très étrange, très étrange.
Oui, c'est bizarre.
Oui. Corentin, des news du côté de Telltale. Alors, on a un peu parlé en ce moment.
Des news, c'est quasiment des non-news, il n'y a pas vraiment d'informations, en tout cas il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais il y a le nouveau patron de Telltale, donc développeur bien connu ces dernières années pour ses adaptations de séries, de télé, films, jeux, donc Tales from Borderlands, Game of Thrones et Walking Dead bien sûr, et d'autres, qui a annoncé, donc le nouveau patron d'ailleurs qui s'appelle, si je ne m'abuse, Kevin Brunner, ton chef a pensé qu'il cultive une lointaine parenté avec Pascal Brunner peut-être, je ne suis pas sûr.
Je suis pas sûr non plus, mais bon.
On ne sait pas. Qui était, il me semble, le dernier fondateur du studio qui est encore là-bas, je crois que l'autre est parti, justement, il lui succède donc, a donné une interview à Gamasutra où il expliquait notamment en deux lignes que leur Telltale travaillait pour ce qui est la première fois de son histoire, sur une licence, une nouvelle IP, une nouvelle licence, une licence maison. Quoi. Et c'est assez inattendu dans la mesure où jusqu'ici, non seulement leur fonds de commerce, mais même l'exclusivité de leur production, c'était des adaptations. Ouais. Là, maintenant, donc c'est assez inattendu pour ça, parce que c'est très nouveau. Et en même temps, c'est assez logique, parce que je pense que leurs jeux ne doivent pas coûter une fortune incroyable, et malgré tout, ils se vendent très bien. Et je trouve que c'est intéressant de voir que ce studio-là va peut-être passer... Bon, je pense qu'ils ont déjà passé la seconde avec Walking Dead et compagnie. Ils vont peut-être passer la troisième, quoi, en proposant des univers peut-être un peu plus audacieux. Moi, j'espère qu'ils vont essayer aussi de faire des trucs un peu moins geek, en fait, quoi, parce que c'est-à-dire là, on avait des chevaliers, on avait des guerriers de l'espace, on avait des machins, des zombies. Ça les empêchait pas de proposer des histoires qu'on loue en général comme étant les histoires les plus matures ou presque qu'il y a dans le jeu vidéo, avec Dragon Age aussi récemment et d'autres. Mais peut-être qu'en proposant, alors je sais pas, ce sera peut-être aussi des chevaliers, des zombies, hein, mais peut-être en se laissant l'opportunité de proposer des univers peut-être un peu plus originaux, peut-être un peu plus adultes a priori, ça va être encore plus intéressant et peut-être qu'on pourra se permettre des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre jusque-là, et je trouve ça plutôt cool. Ce qui me fait penser que d'ailleurs il y a le Life is Strange, le jeu de, des Français de Dontnod qui sort là à la fin du mois, qui eux vont faire un jeu qui, on l'a vu d'ailleurs avec Yann, qui ressemble aussi beaucoup à un jeu tel dans ses mécaniques, dans son ambition, et qui se passe aussi dans un univers, enfin qui lui se passe dans un univers original, voire réaliste, même s'il est, il emprunte vachement d'esthétique cinématographique, Sundance et compagnie. C'est un jeu aussi qu'il va falloir suivre, qui va être intéressant, qui sort, si je ne m'abuse, d'ici 2 semaines.
Ah bah on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que sur Telltale, ce qui est intéressant, c'est leur succès se base évidemment sur les licences qu'ils utilisent, mais on les a vus reprendre des licences auparavant et qui se sont pas, enfin qui ont été loin du, des succès récents, tout simplement parce que ce qui a fait leur succès depuis The Walking Dead, c'est la qualité d'écriture, c'est la qualité de leur système de narration, leur moteur de narration qui existe aussi. Et c'est vrai que finalement on est à se dire bah, ça marche évidemment parce qu'il y a les univers de Walking Dead, mais surtout parce qu'ils savent raconter des histoires. On a attend évidemment avec impatience dans un univers polar, un univers noir, ce genre de choses, ça peut donner des choses très 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 intéressantes.
Tu vas jamais croire, je jure que je n'y pensais pas en faisant cette actu, que j'ai choisi 5 minutes avant de rentrer dans le studio. Mais dans le dernier JV, on parle de Telltale, il y a un gros studio, c'est un gros dossier, c'est notre couve d'ailleurs, et on parle justement de cette méthode un peu de Telltale, comment ils ont inventé un genre qui est aujourd'hui un genre à part entière, c'est le jeu à la Telltale.
Oui, qui est un héritier du point and click lointain, mais
de plus en plus lointain. Oui,
ouais, de plus en plus lointain.
Mais dont le modèle économique aussi est unique, puisque on voit que même les éditeurs comme Capcom, avec un Resident Evil, le prochain Révélation 2, sera commercialisé de manière épisodique aussi.
Mmh. Ouais. Life is Strange, des Français de Dontnod, ouais, qui sera édité par Square, va voilà, aussi reprendre ce format-là.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les premiers, on en avait parlé, mais je crois qu'on en avait parlé il y a longtemps dans Silence on Joue, pendant, enfin, au début du succès de la nouvelle vague des séries US, à un moment on s'est dit, bah oui, la narration dans les séries, on est sur des narrations d'une vingtaine d'heures, hein, pour les saisons classiques de 24 épisodes ou une vingtaine d'épisodes, on est sur des narrations d'une vingtaine d'heures, ce qui se rapproche de la durée d'un jeu vidéo, pourquoi ne pas utiliser voilà, les techniques de série télé pour les appliquer aux jeux vidéo, et Telltale ont été les premiers à vraiment l'appliquer, et à l'appliquer de manière intelligente et pertinente.
À la Noël, ils avaient essayé ça, et en fait ils avaient dû renoncer, je sais pas pourquoi, parce qu'ils se sont rendu compte que c'était peut-être trop tôt, que c'était pas pertinent, mais effectivement Telltale a été le premier à franchir le pas avec succès. Ouais.
Ah ouais, et avec les célèbres Cliffhanger et prochainement dans l'épisode, enfin qui sont assez incroyables à chaque jeu Telltale. Le com des coms de l'émission sur Dragon Age. Enfin il y avait eu plein de commentaires, mais évidemment vu qu'on sait la première émission de 2015, on ne peut pas passer à côté du top 10 des auditeurs de Silence on Joue pour l'année 2014 qui a lieu dans les forums. Alors cette année, mea culpa, c'est de ma faute, je ne l'ai pas annoncé, ou très peu, non je ne l'ai pas du tout annoncé dans Silence on Joue. Alors il faut dire que la fin d'année a été un peu tumultueuse pour ce podcast, donc je n'ai pas annoncé, donc il y a eu moins de votes que les éditions passées, mais voilà, on est arrivé quand même à un certain nombre de jeux, il y a eu quand même 88 jeux cités, donc j'ai commencé par le 88e et je vais remonter, non je déconne, il y a 88 jeux cités, les dernières positions étant Metal Gear Solid Ground Zero et PES 2015.
Deux genres assez différents,
mais voilà, juste pour citer le top 10 des auditeurs de Silence on Joue. En 10e place, nous avons Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. En 9e, Shovel Knight. Vous avez le droit de commenter, hein, si vous voulez.
Bah, c'est très bon choix.
Pour l'instant, on est content.
En 8e, Super Smash Bros. Qui dans d'autres classements arrive bien plus haut, mais bon, ça, on a toujours été un peu originaux à Silence on Joue. En 7e place, on a Divinity Original Sin.
C'était mon premier.
C'était ton premier, bah, il est là. En 6e place, The Walking Dead saison 2. Exceptionnelle deuxième saison de The Walking Dead. En 5e place, et qui est aussi beaucoup plus haut dans d'autres classements, Dragon Age Inquisition. En 4e place, et je ne l'attendais pas du tout, là, nous avons South Park, Stick of Truth. Trust. Trust.
Truth.
Ah voilà, Stick of Truth. Oui, le bâton de la vérité. Pardon. En troisième place, qui là est aussi assez exceptionnel, deuxième Telltale de l'année, The Wolf Among Us, adaptation de l'univers de Fable. Et en deuxième place, nous avons Dark Souls 2. Il faut dire que si l'on s'en joue, il y a une sorte de confrérie Dark Souls parmi les auditeurs de Si l'on s'en joue, et notamment sur les forums de Si l'on s'en joue. Donc ça crée peut-être un léger biais dans les votes, hein, je ne sais pas. Mais ça reste pour autant, hein, c'est un excellent jeu. Et en première place, qu'est-ce que, alors que vous voyez en première place, qui n'est pas encore dans le classement?
Bah, moi j'ai le mien qui n'est pas encore en classement, mais je ne pense pas qu'il sera en première place.
C'était quoi?
Bah, C'est le patch de février de Diablo 3 qui a complètement changé la donne et qui a fait Diablo 3 un excellent jeu.
D'accord. Non,
mais
c'est
je ne sais pas que ça.
J'étais à 5 sur PS4.
Et non, il s'agit d'un free-to-play en première place.
Candy Crush, Saga Soda.
C'est bien sûr Hearthstone. Là aussi, peut-être, il y a un biais parce qu'il y a eu aussi, une frange très hardcore dont je fais partie d'ailleurs de Hearthstone dans les forums de Science en Joue. Voilà, c'est ce classement, c'est à retrouver dans les forums de Science en Joue. Vous passez par libération.fr pour y accéder. Il y a un lien dans tous les articles Si l'on s'en joue du site. Voilà. Et puis, bah, c'est le moment de commencer cette année. Et on va prendre le métro, le mini-métro de Dino Pono Club ou de Polo Club ou un truc comme ça. Je ne sais plus.
Oui, je vois. Il y a un dinosaure ou un diplodocus dedans, un truc comme ça.
C'est ça. Mini-métro. Alors, Mini Métro a débarqué, je crois, début 2014 sur le web, dans le navigateur web en version alpha. Ils sont passés par Steam Greenlight, ils en sont sortis. Je ne sais pas s'ils ont été greenlightés finalement. Ils débarquent de toute façon. Ils débarquent dans Steam et depuis, je crois, début décembre, fin novembre, ils sont en version bêta, je crois. C'est ça, non, je cherche une approbation du regard, mais c'est pas grave, je n'en ai aucune.
Je pense que c'est le bon trimestre, en tout cas.
Moi, je sais que j'ai été complètement, je crois que j'en avais parlé ici même, je suis complètement tombé dans les versions alpha de Mini Métro, ces versions qui se jouaient donc grâce au plugin Unity des navigateurs web. Qu'est-ce que c'est Mini Métro? Je vais essayer de résumer, vous pouvez compléter. Donc, on part Alors, comment résumer Mini Métro? Grosso modo, nous avons le but est de construire un plan de métro, mais des lignes de métro dans une ville.
Déjà, c'est fun.
Déjà, c'est hyper fun. Sachant que nous avons des stations qui apparaissent aléatoirement sur la carte et il faut relier ces stations car le but du jeu est de convoyer tous les passagers qui apparaissent à une station et les convoyer vers leur station de destination. Sachant que chaque passager est représenté par une forme qui correspond à la forme de la station vers laquelle ils doivent aller. Et nous avons, au début du jeu, nous avons donc trois formes différentes qui sont le carré, le triangle et le rond, ce qui fait que dans une station carrée, on peut voir apparaître des petits triangles ou des petits ronds et puis il faut acheminer les passagers comme ça. Et au fur et à mesure, ça grandit, au fur et à mesure, il y a des nouvelles stations qui apparaissent, la carte se dézoome très très lentement, mais d'une manière assez lente, ce qui fait qu'à un moment, on se rend compte, elle est beaucoup plus grande qu'au début du jeu, et alors qu'on s'en rend pas compte en temps réel. Et puis il y a des nouvelles formes de stations qui apparaissent, des étoiles, des croix, des losanges, tout ça,
les amoureux des formes se régalent dans ce jeu.
Voilà, et il y a de plus en plus de trafic, et puis on n'a pas tant que ça de lignes de métro qu'on peut ouvrir. Si on avait un nombre infini de lignes de métro à ouvrir, ce serait un peu trop facile, donc on a un nombre limité de lignes de métro, on a un nombre limité de locomotives dans ces lignes de métro, et il faut comme ça, c'est une gestion de flux, et voilà, ils ont réussi, les gens de Mini Métro, à faire d'une gestion de flux un jeu captivant. Enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On commence avec toi, peut-être Yann.
Oui, moi je l'ai découvert justement cette fin d'année. Et pour
faire mon autocritique et de manière complètement sincère, le premier jour, je n'ai absolument rien compris. J'étais complètement paumé, je ne comprenais rien à ces tubes qui envoyaient des gens. Je ne voyais pas où ça menait et tout ça. Je me dis, mon Dieu, je ne serai jamais maire d'une ville. Heureusement que je suis journaliste de jeux vidéo.
Et ça va nulle part.
et puis finalement, c'est la force du jeu, je trouve. C'est que... Il y a un tutoriel et tout ça, mais je pense que la progression se fait de manière complètement incrémentale, par tâtonnement, par échec. Et puis finalement, tu trouves une espèce d'harmonie dans ce que tu fais, et surtout un sens. Et c'est là que le jeu en devient extrêmement addictif, parce qu'ils ont eu la bonne idée, outre ce système de flux qui est hyper bien pensé et qui est hyper solide. Enfin, il faudrait peut-être mettre un scientifique devant, mais en soi, c'est assez fascinant à regarder. C'est de fixer des paliers de niveau, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu atteins un objectif, alors soit c'est tu réduis le temps d'attente, soit tu augmentes le nombre de visiteurs, il te laisse un choix. Est-ce que tu vas mettre une locomotive ou plutôt un deuxième wagon pour avoir plus de passagers, ou est-ce que tu vas te permettre d'avoir des tunnels pour pouvoir, puisque oui, chaque carte est inspirée d'une ville voilà, connue, New York, Paris, Le Caire et tout ça, et donc il y a des points d'eau et
certaines... Pour commencer, je conseillerais Londres, hein, qui est la première carte. Parce que déjà Paris, il y a des îles, donc ça c'est pénible en nombre de tunnels, il faut en débloquer. Et
en
puis,
plus,
alors,
les
New York,
pas se croiser,
bordel,
et tout ça. Et ce qui est vraiment, vraiment très très fort, et en fait, je voudrais revenir sur ce que j'avais vu Eric Chahi une fois, une conférence sur le jeu indé. Donc Eric Chahi, créateur de Another World, entre autres, mais surtout de From Dust dernièrement, il parlait justement de lui en train de travailler dans sa cave en ce moment, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement discret et qui s'est mis en indé total, One Man Army et tout ça. Et il disait qu'en ce moment, son plus grand kiff, c'était de créer des logiciels de simulation de flux ou de matière. Et on voyait ça dans From Dust, c'est-à-dire que il y avait ce moment où tu pouvais laisser tomber ton gameplay et juste voir l'effet de ce que tu avais construit, des éléments et tout ça. Tu pouvais juste t'asseoir et regarder un tsunami faire des dégâts. Et ça valait comme gameplay en soi. Et alors, à toute proportion gardée, je trouve que dans Mini Metro, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile, tu es dans la difficulté, tu es constamment pressé, machin et tout ça. Mais il y a un moment où tu trouves un point d'équilibre et tu as cette espèce de satisfaction qui est vraiment l'achievement personnel de te mettre en arrière sur ton fauteuil et puis de regarder juste ta propre création et tes flux se faire d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça, voilà, j'ai trouvé ça très beau. C'est un petit jeu, hein, je veux dire, il n'a pas plus de prétentions qu'il en affiche. Je veux dire, à partir d'une simple carte de tracé de métro, à arriver à avoir de créer une fascination devant les flux que tu crées, je trouve ça assez, assez chouette, quoi.
Dino Polo Club, voilà. Enfin, j'ai retrouvé le nom de ce studio. Corentin, toi, tu n'as rien compris.
Si, j'ai tout compris. Par contre, une des premières choses que j'ai compris, d'ailleurs, c'était que j'étais très mauvais. Parce que, en fait, justement, c'est ce point d'équilibre dont tu parles, mais je le cherche encore, parce que t'es quand même dans un stress permanent, quoi, ce jeu. C'est des sessions très courtes. Moi, ça m'a évoqué une sorte de... Ah oui, non, c'est pour ça, je suis très mauvais, effectivement. Ça m'a évoqué, en fait, dans une version quasi abstraite, en fait. Moi, un jeu qui était un de mes jeux préférés quand j'étais ado, qui était Transport Tycoon, devant lequel j'ai passé un nombre de temps, un temps incalculable, mais dans lequel tu pouvais effectivement très facilement arriver à un point d'équilibre et observer ta ville, ton environnement, ta région exister et tout ça. Là, moi, je suis tellement mauvais que j'avoue, dès que je la relâche mon attention une seconde, je me fais complètement déborder et je perds. Parce que qu'est-ce que t'as appelé, c'est quoi une session longue? Combien de temps vous vous donnez, vous?
Moi, je...
C'est une heure, là.
Ouais.
Ah ouais, non, mais moi, je tiens pas 20 minutes. D'accord, ok. Donc, du coup...
Ça dépend le mode de jeu. Il y a le mode un peu freestyle où, en fait, tu gagnes les améliorations avec ton débit de passager. Celui-là, en fait, les stations se bloquent pas. Parce que le game over, c'est quand il y a trop de monde dans une station, dans le mode normal. Quand il y a trop de monde qui attendent dans une station, qui attendent le prochain métro, là, il y a un compte à rebours sur la station et quand elle arrive à saturation, c'est game over. Et dans ce mode-là, ouais, ça peut aller assez loin.
Il y a même un game over, mais quand tu gagnes, j'ai vu que j'avais fait la carte de Moscou, et effectivement, au bout d'une heure de jeu, il me dit la population a atteint son maximum, genre 600 personnes.
Oh, il se la pète,
mais... Non, mais c'est pour dire que je pense que le jeu est toujours en
Il est en Early Access sur Steam. Donc,
ouais, il est à 7 euros. Ouais. Il est en version bêta. Hein, c'est... Voilà. Sachant que l'alpha, c'était passionnant. Enfin, juste pour revenir sur l'alpha, moi, j'ai suivi mois d'août, septembre, toutes les versions, toutes les builds de l'alpha qu'il mettait en ligne. Mm. C'était génial parce qu'il changeait trois éléments de gameplay. À chaque fois, c'était vraiment... En plus, ce n'était pas des petits changements, mais ça changeait complètement la manière de jouer. Si, hein. À un moment, ils ont arrêté de comptabiliser les tunnels. On pouvait en faire autant qu'on voulait. À un moment, il y avait une...
C'est le rétabli, hein, parce que ça, c'est comme ça que je perds en général.
Et à un moment, pendant très longtemps d'ailleurs, il y a eu un système où on pouvait améliorer les stations elles-mêmes. On pouvait choisir de faire une super station où les gens descendaient et montaient plus vite et où il y avait une capacité plus importante. Enfin voilà, il y avait plein de changements. Donc ces améliorations de stations ne sont plus là. Et du coup, c'était assez marrant. Et puis c'est vrai aussi que dans ces systèmes-là, moi je pense qu'il faut soit beaucoup jouer, soit aller voir sur certains forums pour commencer à comprendre comment est-ce qu'on fait ces structures. Par exemple, moi, je n'aurais jamais trouvé tout seul, en tout cas, qu'il faut faire des boucles. C'est-à-dire que ça ne sert à rien.
Je vais prendre des notes, là, parce que...
ça ne sert à pas grand-chose, en tout cas, sauf exception, de faire des lignes avec des allers-retours, comme les lignes parisiennes, par exemple. Il faut faire des boucles pour éviter, par exemple, d'avoir deux stations identiques qui se suivent. Ça, c'est notamment les ronds et les triangles, qui sont les stations les plus nombreuses. Il faut alterner les ronds et les triangles.
Il faut vraiment que je prenne des appareils initiaux.
Voilà,
ça va loin dans le technique.
Et du coup, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout d'un moment, quand on arrive à ce point de stabilité qui n'arrive jamais... En tout cas, parce qu'il y a des nouvelles formes de stations. Et en fait, on commence à voir les points faibles de notre structure de métro, là où ça s'accumule. Et là, c'est la panique parce qu'on n'a plus une locomotive de libre. On essaie de rééquilibrer les trucs, mais c'est un cauchemar. Et là, on perd, généralement. Enfin, moi, c'est à ce moment-là, que je suis en galère. Et c'est assez...
Apparemment, ils ne risquent pas de s'arrêter là, puisque... Ils promettent un mode cauchemar pour les versions à venir. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'est une version sans son.
Oui. Vrai,
et du coup, je crois que ça stresse encore plus.
Le son qu'on a entendu tout à l'heure, c'était le son du trailer. Ouais.
Mais là, tu joues dans le silence. Ouais. Et bah, faire marcher des métros dans le silence, bah, c'est quand même sacrément angoissant.
Oui.
C'est pire que Dark Souls. Hein.
Mais ouais. Il y a cet aspect hypnotique, en tout cas, que je pense que tu vas y arriver, Corentin, à partir du moment où on comprend un peu le jeu, la structure du jeu.
Ah ouais, c'est, en fait, il y a une dichotomie entre l'ultra-simplicité, l'ultra-minimalisme du truc, et malgré tout, la maîtrise que ça demande.
Ah bah, parce que déjà rien que le fait que les carrés, les ronds et les triangles, qui sont les trois stations de base, n'aient pas la même fréquence d'apparition. Et c'est là où il faut faire le... Parce qu'il y a beaucoup plus de stations rondes qui sont logiques dans les stations de métro, enfin les plans de métro. Et en fait, après, il y a un peu moins de stations triangles et il n'y a pratiquement pas de stations carrées qui deviennent les hubs incontournables. Enfin bref, et donc ça crée comme ça des structures... On change sa perception du jeu. Enfin voilà. Donc, Mimétro, 7 euros à télécharger sur Steam et sans doute ailleurs. Je n'ai pas vérifié.
Mais est-ce que la version alpha n'est pas toujours disponible sur le site
Oui, je pense que la version. Il doit y avoir une version test sur le site du Dino Polo Club. Voilà, donc Mini Métro, et c'est le moment de passer au gros morceau. C'est aussi sorti en décembre, début décembre, le 11 décembre, si je ne m'abuse. C'est signé Crow Team et édité par Devolver Digital. Autant vous dire que le mariage Hotline Miami, Serious Sam. On pouvait penser que ça aurait touché à un truc un petit peu bourrin. C'est un peu l'inverse. C'est une grosse surprise. En tout cas, pour moi, ça a été une surprise de ce mois de décembre et de ce début d'année. The Talos Principle.
I wonder, who will you be, our children? Will you love us for having created you? Will the world you build be like ours? Or so different that today we cannot even imagine it?
Step into the light, child.
Is there anything that we associate more closely with intelligence than curiosity? Our mythologies are full of riddles and mysteries and divine knowledge.
My child, you may go freely to all the worlds of my garden. But if the tower tempts you,
don't. On est obligé de citer Portal. Si je devais résumer The Talos Principle, c'est... Est-ce que vous avez joué à Portal?
Ça pourrait être un exercice de rhétorique, ça, de parler de ce jeu sans citer Portal.
Ouais. Raté. Donc on est face à un puzzle game narratif en vue subjective, genre qui est pratiquement créé donc par Portal et Portal 2. Je vais vous laisser la parole tout de suite d'ailleurs parce que je pense que vous y êtes plongé il y a bien plus longtemps que moi et pendant plus longtemps d'ailleurs. Corentin, The Talos Principle, ta prise en main déjà, ton premier contact avec ce jeu.
Le premier contact, ça va peut-être me permettre d'évacuer quelque chose. Le premier contact, c'est le contact avec le texte, parce que donc ce jeu, il y a beaucoup de textes où passe. En fait, on est effectivement, c'est une succession d'énigmes, mais on passe aussi beaucoup par des moniteurs. On a une relation avec une sorte d'intelligence artificielle. Et donc, on se tape des murs de texte, et qui sont intéressants, on y reviendra. Mais je ne sais pas si vous l'avez en français ou si ça a été patché entre-temps, mais moi, quand je l'ai fait à sa sortie, la version française était absolument abominable. C'est peut-être le pire ou un des deux pires jeux que j'ai jamais vu niveau traduction. Donc, c'est imbitable, il faut le passer en anglais si vous parlez anglais ou prendre votre mal en patience si c'est pas le cas. Donc voilà, ça m'a d'abord un petit peu refroidi et je pense peut-être un peu biaisé ma vision générale du jeu, malheureusement. Ensuite, mon premier contact, comment dire, quand tu commences dans le jeu, tu te réveilles. Et dès la première scène, je suis assez content de moi de l'avoir repéré. Dès la première scène, ça se réveille, tu es allongé au sol, c'est un FPS, donc tu regardes vers le ciel et tu vois la main de ton personnage qui passe devant le soleil. Et tu t'aperçois très furtivement que tu es donc un androïde, parce que ta main est dépourvue de peau ou ce genre de choses, ou de chair, ce genre de choses qui sert habituellement sur les mains. Et,
chose que tu revois ensuite dès que tu te connectes à un terminal.
Voilà, donc le jeu te rappelle souvent, et d'ailleurs c'est au cœur de l'histoire, c'est qu'en fait tu es une sorte d'androïde, d'IA, on ne sait pas trop, qui est plongé au cœur d'un système avec une sorte d'être omniscient, omniprésent en tout cas, qui est donc, rappelez-moi le nom parce que je l'ai fait il y a deux mois, je ne sais déjà plus.
Éolim.
Ouais,
Elohim.
Qui est une sorte de, comme son nom l'indique assez peu finement, une sorte de dieu donc, et qui te propose de partir en quête de symboles, de sigils que tu vas aller chercher dans une succession de puzzles qui sont présentés un peu comme des labyrinthes, comme une succession d'épreuves. Et donc, d'abord, tu as ce dieu qui t'envoie assez bonhomme chercher ça. Et très vite, tu tombes sur un moniteur où tu essayes de te connecter et où tu tombes face à une IA qui, elle, à l'inverse, va te dire elle va t'instiller le doute et notamment te confronter en fait, à ta propre conscience en te demandant est-ce que finalement, tu es vraiment une intelligence artificielle ou est-ce que... Enfin, c'est acquis que tu es un androïde, mais... est-ce que tu es un androïde doté de conscience ? Et donc là, déjà, tu te dis, ok, c'est un peu plus compliqué a priori que ce que je pensais.
De conscience et d'humanité.
Et d'humanité.
Ouais.
Et après, tu pars. En fait, ça s'organise en succession de hubs. Tu as trois gros hubs avec chacun 10 ou 12 plus petits hubs et à chaque fois 4-5 énigmes. Et dans lesquels tu vas, c'est des énigmes comme des salles de portal en fait, où tu vas te saisir des objets. Donc les objets de base, ce sont une sorte de défracteur de lumière, comme une sorte d'objet de géomètre que tu poses au sol et qui va... Non, l'objet de base, pardon, c'est pas ça.
Un brouilleur de barrières ou de...
Ouais.
de
brouilleur électrique.
Tu le poses devant comme les équivalents un peu des tourelles dans Portal, que tu vas poser devant les boules qui patrouillent, qui te tuent si tu les approches de trop près. Tu vas les poser devant les portails pour les fermer et peu à peu, tu vas débloquer de nouveaux objets. Donc, ce défracteur de lumière qui permet, un peu comme les portails, les cubes transparents dans un portail, de relier des différents interrupteurs. Tu as des plaques que tu vas porter au-dessus de ta tête pour poser des objets ou ce genre de choses. Tu as des sortes de choses qui te permettent de voyager dans le temps pour faire de la coopération avec toi-même. Et tant que j'en suis à parler de ces objets-là, moi, c'est pour moi la grosse différence avec Portal. C'est que dans Portal, tu es au centre... C'est pas toujours aussi simple, mais souvent tu es au centre du dispositif avec ton portail et tu vas regarder, tu vas étudier en tournant partout, en regardant autour de toi, ce que tu vas pouvoir faire en ouvrant un portail à gauche, un portail à droite et en essayant de faire passer un objet entre les deux. Enfin, tu es finalement assez peu actif, enfin, c'est ton flingue qui est vraiment là, ton portal gun qui est là pour toi. Là, c'est vraiment un jeu de déménageur en fait. Tu passes ton temps à bouger des objets, à les mettre tel objet à un tel endroit. Tu fais beaucoup d'allers-retours et la gestion de l'espace est vraiment très différente. La gestion du rythme aussi est très très différente d'un portal. Mais alors après, je saurais pas te dire si c'est mieux ou moins bien. Je sais que toi, Yann, on avait parlé là-dessus à une époque. Tu as peut-être un point de vue là-dessus. Je sais pas non plus. Mais en tout cas, c'est pas ça qui m'a vraiment le plus gêné dans ce jeu. Si ce qui m'a le plus embêté, En tout cas, la gestion des énigmes, et de la part de Crow Team, a priori, c'est extrêmement surprenant. Les énigmes sont globalement de très bonne qualité, à deux ou trois exceptions près, où tu as l'impression qu'en forçant un peu, ça peut passer et tout ça, et on sent que c'est un peu moins bien pensé. La gestion des les énigmes sont vraiment très très bien, et d'ailleurs, je crois qu'ils ont travaillé en amont. Ils parlaient d'une intelligence artificielle qu'ils avaient mis au point et qui testait 150 000 possibilités à la seconde pour justement essayer de voir ce qui était faisable ou pas faisable. Ils ont été très fiers chez Crow Team pour une fois qu'ils développaient autre chose qu'un FPS, qu'une gestion des balles, ils étaient contents. Et en revanche, moi, ce qui m'a un peu plus embêté, c'est que cette fameuse histoire qui est extrêmement à laquelle on confronte dès le début du jeu et qui est assez ambitieuse quand même. On parle de conscience, de ce qui fait un être humain.
Ils ont notamment fait appel au scénariste de Faster Than Light pour écrire leur truc. C'est assez marrant parce que l'histoire, c'est en développant Serious Sam 4, si je ne m'abuse.
Il est
sorti ou pas, Serious Sam 4?
Non, 3.
Voilà, oui, donc c'est pour développer le 4. En fait, ils ont fait un système d'énigmes, ils ont décidé d'en faire un jeu à proprement dit. Et c'est là où ils ont fait appel à des scénaristes de la scène indé, notamment celui de FTL, pour développer tout l'univers. Voilà. Bref, je t'ai interrompu.
Et donc, on te pose beaucoup de questions comme ça, assez intelligente, j'ai envie de dire, même si c'est une intelligence que je trouve un peu très appliquée, quoi. C'est-à-dire que pour Crow Team, ce qui doit symboliser l'intelligence, c'est les pyramides de Khéops, c'est la Grèce ancienne, je vois Yann pas content à côté. Pour moi, c'est un peu scolaire, c'est un peu lisse, c'est une sorte de, on sent que c'est des gens qui ont vu ça au lycée, ils ont dit tiens, ça c'est intelligent, on va le mettre dans un jeu vidéo. Parfois c'est un truc qui m'a un petit peu embêté avec ce jeu. Mais cette sorte d'univers pseudo-intelligent, je trouve que le gros drame de ce jeu, c'est que, à l'exception d'une scène finale qui aurait dû être en fait l'essentiel du jeu et qui ressemble plus à ce qu'est véritablement Portal, tu es en fait, la narration et la construction des énigmes ne se croisent absolument jamais, quoi, dans ce jeu. C'est-à-dire que t'as une succession de mécanique puis de philosophie. Mécanique, philosophie. Et la narration ne passe jamais par les mécaniques de jeu, ne passe jamais. Autant le Portal Gun, c'est à la fois un outil et quasiment la raison d'être en fait, du jeu, notamment dans Portal 2. Là, ces outils-là, ils sont complètement génériques. Tout le scénario, quand bien même il aurait été développé par le monsieur de FTL, il aurait pu prendre place dans n'importe quel autre jeu en fait. Et c'est que je trouve qu'il y a une vraie. Je vais réutiliser le mot dichotomie parce que j'ai bien aimé la première fois. Il y a une vraie dichotomie, encore une fois, entre le gameplay et la narration. Et ça, je trouve que ça montre quand même que n'est pas, malgré tout, Valve, et en tout cas n'est pas Portal qui veut.
Waouh! Non, mais c'est bien. Non, c'est bien. Et d'ailleurs, Yann, tu étais prise à partie en plein milieu de
du passage. Oui, parce qu'on a un peu croisé le fer dans une émission précédente. Mais je n'avais pas encore fini le jeu. Depuis, je l'ai fini. Et je suis encore moins d'accord avec toi. Bah, si, je suis d'accord avec toi sur le problème de traduction, parce que ça, c'est tellement évident qu'ils ont recouru à Google Trad ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, ça fait du plaqué, quoi, de traduction brute.
Ils ont rajouté des fautes, c'est du Google Trad.
En plus, ils ont rajouté des fautes. Moi, le truc par rapport à Portal, et notamment la narration, c'est que Talos prend le parti d'une narration non linéaire. C'est-à-dire que tu fais les puzzles dans l'ordre que tu veux, tu vas aller dans le... Enfin, au début, tu as l'univers de gréco-romain qui te permet de débloquer les tétraminos, donc les formes de Tetris, qui t'ouvrent peu à peu les deux gros environnements, donc l'Égypte et le médiéval. Et du coup, à un moment, tu peux faire ta soupe. C'est-à-dire que tu bloques sur un puzzle, tu peux le laisser tomber, c'est pas grave. Tu peux aller en faire un autre. Portal était sur un mode linéaire. Donc, oui, elle était géniale, l'histoire, mais heureusement, parce que tu l'assumissais. Tu étais au cœur d'un truc, tu étais vraiment sur un tapis roulant. Alors qu'effectivement, Talos, voilà, choisit un peu cette narration ouverte, donc forcément, c'est beaucoup plus difficile de s'investir dedans. Et comme tu dis, c'est pas dans le puzzle qu'on te raconte une histoire, c'est en récompense. Les fameux terminaux qui sont en périphérie des salles puzzle t'interpellent et commencent à disserter avec toi, à te poser des questions et à te pousser même dans des retranchements, c'est-à-dire qu'ils te posent des questions. Tu as une sorte de questionnaire à choix multiples Au bout d'un moment, tu réponds un peu au hasard et puis tu te rends compte que bah, c'est des questions sur la liberté, sur la bioéthique, sur la conscience, sur machin. Puis ça te parle quand
t'as,
même.
T'as,
puis...
t'as des QCM comme ça assez étonnants. Et puis après, t'as les résultats pour savoir est-ce que, voilà. Est-ce que c'est logique ce que tu as dit.
Non, ouais, c'est et, puis, ouais. Et puis après, ils t'interrogent encore le jeu par rapport à tes décisions.
Ils te poussent quand même assez loin.
Il y a, plusieurs, y a des moments où c'est bien fait, effectivement.
Et je me disais, mais.
Moi, j'ai eu une réponse. Maximiser le bien-être et la liberté sont incompatibles, par exemple.
Non, mais le truc, c'est que chaque année, depuis qu'on a passé le bac, donc ça fait une certaine distance pour chacun d'entre nous, on entend les sujets passer et on se dit, bon, oh là là, je sais pas ce que je pourrais dire. Et moi, je me souviens de mes cours de philo. Je me souviens surtout que j'avais ce manque d'interaction avec le réel, des fois avec la vie. C'est-à-dire que c'était très beau, ce que me disait un prof, dans la théorie, dans l'abstrait, machin, et tout ça, mais que ça manquait de champ d'application. Après, tout dépend du talent du prof. Et je trouve que là, y a un jeu vidéo qui trouve un champ du réel qui est quand même assez... qui est là, devant moi, qui est présent, qui est vivant, et qui me permet de poser des questions que je ne m'étais pas forcément joué en jouant à un jeu d'énigmes. Et c'est ça que je trouve assez beau dans Talos, c'est-à-dire que d'un côté... Tu fais des énigmes et tu es dans une espèce de truc de rendement. C'est un jeu qui va très très vite, où tu as 150 puzzles. Et en plus, c'est à la fois de la réflexion et de l'adresse, parce que tu dois aller vite pour éviter certains pièges. Et donc, tu es vraiment dans un truc de rat de laboratoire. C'est-à-dire que la notion de liberté, elle est quand même très très relative dans ce jeu-là. Et puis tout d'un coup, tu as une espèce d'ouverture intellectuelle avec des questions qui te disent, mais... finalement, c'est quoi d'être vivant? C'est quoi d'être conscient? Est-ce que c'est juste prouver son intelligence contre un puzzle, machin et tout ça? Et je trouve qu'il y a une montée en puissance là-dessus au niveau du jeu, jusqu'à une fin que moi j'ai trouvée vraiment magnifique. Je ne veux pas la spoiler, mais... et qui du coup t'ouvre un champ des possibles et un champ d'interprétation que moi j'avais pas forcément vu ailleurs. Et j'adore Portal, j'adore ce que ça a apporté au jeu de réflexion, au jeu narratif et tout ça, mais on n'est pas du tout dans la même optique. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de défendre les mecs de Croteam, parce qu'ils sont, ils ont pas voulu surfer sur la vague d'un succès, ils ont voulu livrer une expérience qui est à la fois philo, un peu bancal, un peu mal traduite, un peu trop verbeux.
Et puis, quand même un peu d'humour quand même. Enfin, ça reste une écriture.
C'est parce que j'ai pas compris les blagues tellement c'était mal traduit.
Non, mais après, c'est un décalage entre le fait que ce soit tu discutes avec un terminal, t'as des échanges de mails que tu peux lire. Enfin, dans le contenu comme ça, il y a une sorte de distance aussi avec le propos philosophique un peu lourd quand même qui est sur la question de l'humanité, de la conscience et ce genre de choses. Et il reste qu'on est avec toujours un peu avec ces trucs d'anticipation où des acteurs comme ça échangent, et puis il y a des petites traces d'humour. On n'est pas quand même dans le truc un peu grave, prise de tête et tout ça.
Ouais, je trouve que ça se prenait assez au sérieux quand même, quoi. On sent que les mecs ils sont contents de délivrer un message. On sent qu'ils ont eu tellement marre d'être pris pour des gros bourrins qu'ils étaient assez contents quand même de délivrer un message un peu comme ça, quoi. J'ai trouvé, moi.
Ça ne me dérange pas que les développeurs se prennent au sérieux sur un sujet. Ça veut dire qu'ils le traitent avec sérieux. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a bossé derrière et tout ça. Après, le ton est peut-être un peu plombant et obséquieux. C'est peut-être ça le truc. Mais je trouve qu'en tout cas, la façon dont ils ont apporté leurs questions, leur façon de dialectique et tout ça, les problématiques qu'ils soulèvent, je trouve ça assez fin, quoi. Alors oui, il y a ce côté du texte. C'est vraiment... En plus, c'est en langage MS-DOS. Ouais. Donc il y a ce côté un peu...
Non, mais bizarrement, ça passe bien. Moi, je n'ai pas raté une ligne du jeu. J'ai tout fait, j'ai tout lu, effectivement. Mais tu es d'accord avec moi que toute cette réflexion aurait pu être complètement dans un autre jeu, qu'on pourrait même limite couper les puzzles et il en resterait quand même la même charge, quoi.
Peut-être en niveau de scénario, mais
ce serait aride. Je suis d'accord, ce serait très aride.
Je sais pas si l'expérience de jeu m'aurait marqué de la même façon. Je sais pas. On peut raisonner avec des si, mais là, en tout cas, moi, ça m'a marqué justement parce que c'était lié à un jeu de puzzle.
Juste pour quand même parler du cœur du jeu, quand même, au-delà de la narration, c'est ces énigmes. C'est là aussi, moi, où je pense que la comparaison avec Portal tient bien la route. C'est que, tu l'as dit, c'est la qualité réelle de ces puzzles 3D, dans un univers en vue subjective. Moi, j'ai été sidéré par la subtilité. Enfin, on retrouve... parce que c'est plus puzzle que Portal. Portal. Enfin, je trouve qu'il y a Portal à cet aspect-là, mais Portal joue sur une mécanique simple qui est les portails, justement, l'accélération, ce genre de choses. Et là, en fait, on est vraiment sur la topographie. Enfin, on est plus sur du puzzle topographique. C'est on fait le tour, on a conscience de ce qu'on doit activer et tout ça. On a des objets et après, bah, débrouille-toi. T'as 5 objets, t'as 2 interrupteurs à activer. Vas-y, bon courage. Et c'est assez malin parce qu'il y a tout ce jeu de fausses pistes qui est où ils sont passés maîtres. Enfin, moi, je me souviens encore avec émotion d'un niveau qui m'a rendu fou parce que je m'étais auto-persuadé qu'il y avait un interrupteur qu'il fallait absolument que j'active. Donc, j'avais mon petit machin, l'interrupteur était activé, mais il me manquait un élément, il me manquait un objet et j'ai tourné en rond pendant des heures quand même, mais pendant de longues minutes en me demandant mais qu'est-ce que j'avais oublié, qu'est-ce que j'avais pas compris au niveau, j'ai dû oublier un truc. Et non, j'avais rien oublié, c'est juste qu'un interrupteur que je pensais qu'il fallait absolument activer, il fallait pas le faire. Et je trouve qu'il y a cette logique-là, je sais pas comment on fait un puzzle en 3D. Je sais pas comment les mecs ont l'esprit pour faire ce genre de choses.
J'ai fait une réflexion, je dis mais comment font-ils ça? Ces gens doivent être fous. Mais effectivement, c'est en commun avec Portal, c'est que des fois tu dis la solution va être tirée par les cheveux, des fois t'as une montée en puissance, même si c'est pas linéaire, t'as quand même une certaine montée en puissance de la difficulté, hein, tu te dis mais là je suis qu'à la moitié du jeu, avant la fin il y aura des trucs avec des timings impossibles, des trucs comme ça, et en fait non, le jeu est jamais injuste quoi. Enfin, j'ai pas le souvenir précis, mais il me semble qu'il y a 2-3 énigmes qui sont parfois un peu tirées par les cheveux, mais globalement le jeu est pas injuste, et une fois que t'as la solution, une fois que t'as compris en fait ce qu'il faut faire et ce qu'on t'attend de toi, là quand je sais pas si vous rappelez, mais à la fin du jeu, quand tu commences à avoir les gros ventilateurs qui poussent des blocs qui créent des courants d'air et tout ça, je me suis dit oh là, okay, là ça va devenir très très compliqué. Et en fait quand tu prenais un peu de recul, que tu réfléchissais un petit peu, tu te rendais compte que c'était jamais que le jeu mise plus sur son intelligence que sur sa difficulté quoi. Et donc voilà, c'est une réussite.
Et c'est là où ça se rapproche des grands puzzle games, c'est que soit The Talos Principle te fait te sentir très intelligent ou très con. Il n'y a pas de juste milieu. Hein, si tu as passé 3 plombes sur une énigme, et généralement au moment où tu y arrives, tu dis mais non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Ou alors tu arrives sur une énigme et qui peut paraître compliquée avec plein de trucs et tu l'as réussi du premier coup, et là tu as juste l'impression d'être un intellect supérieur et tu veux dominer le monde. Mais c'est rarement entre les deux. Talos Principle, c'est 40€ sur
Steam. Je pense qu'il n'y a pas une sortie PS4 qui est prévue.
PS4 qui est prévue. Pour les mois à venir.
Et ben en tout cas voilà. Moi je pense qu'on a fait un bon résumé et je pense qu'il est vraiment à essayer. Il y avait une version de test, je crois,
le mini jeu de puzzle avec les tétraminos, ça justement c'est pas ça? Non
non non, tu avais quelques arènes, quelques énigmes à faire,
à voir. C'est l'heure de retrouver notre ami Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société, la première de l'année 2015. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose le grand frisson grâce à Dead of Winter, sous-titré À la croisée des chemins. C'est un jeu signé Isaac Vega et John Gilmore, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 90 minutes environ. C'est édité en français par Philosophia car c'est un jeu qui nous vient des États-Unis, de l'Amérique, des States comme on dit. Alors le thème est très hype, très tendance, très branché, très du moment puisqu'il est question de zombies. Et oui, les zombies sont partout dans le monde du jeu de société, mais il est différent des autres jeux de zombies car la plupart des jeux de zombies que vous allez trouver sur le marché vous proposent des figurines, vous proposent des plateaux dans lesquels vous allez avancer, circuler, vivre des aventures, vous fightez à grands coups de dés et à grands coups de tronçonneuse. Et bien là, pas du tout, ou si peu. Dans Death of Winter, nullement question de figurines en plastique à peindre, ce sont des petits pions en carton, mais l'idée principale, c'est surtout que vous allez devoir vous promener de pièce en pièce, en tirant des cartes, en prenant des objets, en résolvant des enquêtes, tout ça de manière coopérative et participative, puisque c'est un jeu où vous allez devoir survivre, mais pas seulement. Pour ceux qui ont aimé Battlestar Galactica, vous allez voir qu'il y a des petites chose qui le rappelle, c'est-à-dire de la fourberie et du vice. Car dans Death of Winter, vous allez avoir un objectif commun qui va être de survivre, mais chaque joueur va avoir son propre objectif qu'il va devoir atteindre de manière plus ou moins secrète. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, vous allez tous gagner, mais si en plus vous avez fait votre objectif secret que vous aviez vous seul, vous allez gagner un peu plus que les autres. Et là où il y a du vice encore plus, c'est que vous allez pouvoir jouer avec des traîtres. Et oui, pendant la partie, il peut y avoir 1-2 traîtres peut-être pour compliquer les choses, et les joueurs qui sont traîtres vont devoir tout faire capoter, que tout le monde meure, que personne ne réussisse la mission principale. Et si c'est le cas, c'est eux qui ont gagné. C'est du vice, c'est très bien fait, c'est très plaisant. La preuve, il a rencontré son public. Tous les joueurs qui ont joué à Deathwinder ont trouvé ça absolument excellent et agréable. Le thème est fort. On est loin du jeu de dés et du jeu de figurines avec du combat. C'est peut-être pour ça aussi que ça plaît beaucoup. C'est très très fun. Les parties sont très renouvelées puisque à la croisée des chemins, c'est un paquet de cartes que vous allez retourner. À chaque fois, il y a un petit côté roleplay. Vous lisez ce qu'il y a sur la carte et vont se déclencher des événements. Vous allez fouiller des pièces. Enfin bref, le truc de survie classique, c'est absolument excellent. Deathwinder. Je vous rappelle le nom des auteurs, Isaac Vega et John Gilmore. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans. Le jeu dure à peu près 90-100 minutes parfois. Ça va dépendre un peu de la complicité des joueurs autour de la table et si les traîtres sont vicieux ou pas. Le prix est de 55€, c'est un peu cher, mais parce que la boîte est extrêmement pleine avec beaucoup de matériel, de quoi jouer pendant des heures. Et mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et de TrickTrack.tv. Les sites incontournables sur le jeu de société, le jeu de plateau et tous ces jeux qu'on ne fait pas devant les écrans. On va finir rapidement, oui rapidement quand même, avec la sortie Nintendo sur Wii U de ce début d'année. J'étais persuadé, mais jusqu'au moment où je l'ai reçu en boîte, que c'était un jeu qui allait être à télécharger sur 3DS. Finalement, c'est un jeu en boîte sur Wii U, comme quoi il faut suivre. C'est Captain Toad Treasure Explorer. Ça m'apprendra à noter des faux noms de jeux sur ma feuille.
C'est un piège.
Ouais, mais c'est de ta faute, Corentin. Voilà, c'est Tracker, c'est ça.
Tracker.
On va y arriver. Non, mais on
cherchez
va y
un
arriver.
Jeu avec Toad en héros, vous trouverez de toute façon une
ouais, appartie. Ouais, c'est le truc avec le champignon qui marche et qui ne peut pas sauter. Voilà, hein, c'est ça. On avait vu Captain, enfin le personnage de Toad dans des puzzle games sur 3D World. Donc sur, c'est ça. Hein,
c'était Super Mario 3D World. Ouais.
Sur Mario 3D World sur Wii U. Ouais. Je vais y arriver. Et là, on reprend exactement le même système, c'est-à-dire qu'on a ce petit monsieur champignon, ce petit Toad qui doit récupérer une étoile, si je ne m'abuse.
Entre autres.
Et arriver à la fin d'un niveau sans avoir la capacité de sauter. Il faut faire tourner le décor pour trouver les moyens, les passages pour y arriver. Je commence par toi, Yann. Que penses-tu de ce jeu ?
Eh bien, j'avais déjà trouvé en tant que mode parallèle de 3D World que le concept était extrêmement fin, puisque effectivement, éternel second couteau, Toad, qui a toujours été un peu dans
l'ombre.
Mal aimé, ouais.
dans l'ombre du charisme sauvage de Mario.
Voilà, la caution kawaii de Nintendo, et qui là, effectivement, a le droit à son propre jeu. Bon, même s'il est hérité.
C'est toujours le dernier choisi à Mario Kart.
Ah, toujours.
Toujours.
Mais
bon, tu veux pas, quoi. Tu veux pas jouer à champignon, c'est ridicule.
Et je trouvais le concept vraiment bien, parce qu'effectivement, c'était moins le déplacement du personnage qui comptait que ton propre regard dessus. C'est-à-dire que ça mélange à la fois le jeu de labyrinthe, un peu d'infiltration, parce que ne pouvant se défendre, il est souvent obligé de passer autour des ennemis. Ça marche comme Mario, il peut se faire toucher une fois à rapetissir et il meurt au bout de la deuxième, et il récupère des champignons, bien sûr. Et là, en plus, il y a un côté Rubik's Cube. C'est-à-dire que vraiment, tu tournes autour de ce puzzle, qui est un niveau en lui-même, et tu peux interagir dessus à certains moments avec l'interface tactile. Et du coup, c'est vraiment intéressant dans ce que tu peux percevoir d'un puzzle. C'est-à-dire que voilà, on parlait de Talos, c'est vraiment la vue subjective. Là, tu es complètement en retrait du truc. C'est vraiment, tu as un côté un peu marionnettiste des murges du puzzle. Et en même temps, il faut te mettre à la place de ceux qui l'ont créé pour comprendre. Parce que c'est des niveaux gruyères qui sont creusés un peu... n'importe comment, et toi tu dois, des fois tu peux perdre ton personnage de vue, donc il faut vraiment trouver le bon angle et tout ça, et le jeu fonctionne très bien là-dessus, vraiment. Chaque niveau qui reprend toutes les thématiques de Mario habituelles trouve cette micro-idée de gameplay et qui finalement te pousse au même refrain qu'on a à chaque fois devant un jeu Nintendo, c'est cette espèce de philosophie unique qu'a cet éditeur de conjuguer à la fois cette accessibilité tout public, cette naïveté extrêmement trompeuse et en même temps ce goût pour l'innovation, non pas à chaque jeu, mais à chaque niveau.
C'est ça, on revient depuis Mario. Voilà, ouais. c'est cette capacité à te surprendre de niveau en niveau, à changer de logique, à changer d'éléments de gameplay de niveau en niveau. Et c'est ce qu'on retrouve chez Captain Toad, Corentin.
Bah, oui, d'ailleurs, moi je trouve qu'on n'est pas. En fait, on n'est pas si. On parle d'un épisode, d'un jeu assez mineur en général. Oui. C'est pas un jeu. D'ailleurs, je crois que sa sortie a été avancée 2 semaines avant. Il est disponible partout depuis 2 semaines, c'est incroyable. Enfin, ça arrive jamais ce genre de choses, notamment quand même pour un jeu développé par un éditeur comme ça, un jeu première partie, first party. Et malgré tout, je trouve qu'on est assez loin du jeu mineur. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du Mario des fois, même si effectivement on ne peut pas sauter, alors que ça paraît débile parce que Mario c'est quand même la plateforme. Mais entre l'univers, l'inventivité qui est toujours renouvelée, si j'en crois la boîte, il y a 70 niveaux.
On va croire la boîte.
On va croire la boîte. Moi j'en ai fait une trentaine, j'ai jamais vu deux fois la même chose. Enfin, c'est complètement c'est assez surprenant, et il y a des phases qui rappellent clairement un Mario dans ces phases les moins plateformes, quoi, même s'il y a quand même une lenteur, une réflexion. Il y a un bouton pour courir, mais je sais pas si vous avez remarqué la différence entre la vitesse de course et la vitesse quand on court pas. Il y en a pas vraiment, on est vraiment dans, c'est pas un jeu en mouvement comme Mario, mais c'est ça marche super bien. Et puis moi je me rends compte que plus je vieillis, plus j'aime bien les jeux mignons, parce que je trouve ça vraiment adorable, ce jeu, c'est incroyablement adorable, quoi. Le seul truc c'est que plus je vieillis, moins je vois bien, mais pourtant je suis pas vieux, mais bon. En fait, c'est que on en parlait avec Yann tout à l'heure, c'est que au bout d'un moment t'as même plus envie de jouer sur la télé, en fait, quoi, parce que c'est tellement tu vois ça tellement loin, ce gros Rubik's Cube, c'est vrai que c'est vraiment ça. Que déjà il y a un bouton de zoom qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, et puis au bout d'un moment t'étais à la télé, tu joues sur ta tablette, quoi. C'est un jeu tactile pour Wii U, enfin mobile, mais en fait c'est le meilleur jeu de tablette, c'est le jeu qui gère le mieux la tablette, qui est le plus pertinent sur la tablette quasiment de la Wii U, alors qu'il s'en sert finalement pas à part comme écran.
C'est sûr qu'il aurait été beaucoup mieux sur 3DS.
Ouais, mais sur l'écran de la 3DS. Logique. Non, moi sur le gamepad Wii U, c'est parfait, quoi. Faut avoir une Wii U.
Bon, c'est pas le jeu majeur, mais un bon début d'année pour Nintendo, évidemment, qui est toujours sur sa lignée Super Smash Bros. De toute façon, hein, mais qui qui en ont pour longtemps pour profiter de Super Smash Bros. C'est fini pour cette rentrée dans Silence on joue, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper très rapidement encore. Je suis désolé de vous presser, mais là on a explosé les compteurs. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Moi, pendant les vacances entre Noël et Nouvel An, j'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai re-regardé une série que j'avais déjà vue. J'ai regardé The Leftovers, donc je pense que tout le monde a déjà entendu parler, donc je vais rappeler très rapidement ce que c'est. C'est une série, ça se passe aux États-Unis, dans l'État de New York, dans un petit bled dont le nom m'échappe présentement, et qui ça raconte l'histoire des différents membres d'une famille, comment ils continuent à vivre malgré un incident qui est arrivé 3 ans plus tôt, qui est la disparition de 2% de la population. 2% de la population mondiale a disparu tout d'un coup. D'accord. Ils se sont évanouis. Et en fait, c'est fait par les mecs de Lost, mais contrairement, par un des producteurs de Lost, mais contrairement à Lost, c'est beaucoup plus. On est moins dans le délire permanent que finalement de raconter comment ces gens continuent à vivre, et voilà. Donc c'est très chouette, The Leftovers. J'espère que j'ai fait court.
Oui, c'était parfait, parfait. Yann.
Moi, je lis les mémoires de William Friedkin, Friedkin Connection, paru chez La Martinière. Donc le réalisateur de, entre autres, immense réalisateur de French Connection, de L'Exorciste ou du Convoi Maudit, qui est un très 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 grand film et malheureusement peu vu, qui revient sur 40 ans de carrière avec cette espèce de générosité théorique sur ce qui l'a poussé à faire du cinéma, son goût pour la cinéphilie, et en même temps qui se raconte vraiment, mais sans aucune retenue et ni censure, parce qu'il est connu pour être quelqu'un d'extrêmement tyrannique sur ses plateaux et à pousser ses expériences très très loin, quitte à mettre en danger ses équipes. Et là, c'est un mélange à la fois de générosité et d'honnêteté qui tient sur 500 pages, et c'est absolument passionnant.
Super. Tu peux redire le nom ?
Friedkin Connection aux éditions La Martinière.
D'accord. Et moi, je suis parti dans Ready Player One, Player One tout court dans la version française de Ernest Cline, qui est un peu... quand il y a des nouveaux salariés chez Oculus VR, on leur demande notamment de lire ce roman qui est un truc donc, sur la réalité virtuelle, un roman d'anticipation hein, sur qui se passe dans les mondes virtuels et qui est aussi en même temps un gigantesque, alors j'en parle sans qu'il soit là, mais un gigantesque hommage aux années 80, car en fait c'est l'histoire de le créateur des mondes virtuels est mort et il laisse en héritage toute sa boîte. Il est multimilliardaire évidemment, et en fait il va léguer sa boîte à celui qui résout une grande quête, en fait qui trouve trois clés, etc., dans ces univers virtuels. Et en fait c'est un fan des années 80, donc tous les indices se passent dans les années 80, des Goonies aux Gremlins, en passant par Durand et tout ça. Donc Patrick aurait adoré, d'ailleurs je vais lui offrir ce livre. Et franchement voilà, il y a ce côté très réaliste, parce qu'en fait tous les personnages ont ces visières de 3D qui rappellent l'Oculus Rift, même s'il est plus petit forcément, et un gant haptique donc pour reproduire le toucher, c'est tout. Et ça permet de partir dans des univers complètement SF mais en même temps très crédibles. C'est assez très très sympa. Voilà, c'est fini pour cette semaine, nous on se retrouve pour parler de jeux vidéo très bientôt, et on a explosé les compteurs. Ah bon, voilà, désolé, ciao.